Soyez les bienvenus, le journal Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un saint tatoué sur la peau ou comment le tatouage peut réparer l'image de ces dizaines de milliers de femmes victimes d'une ablation du sein à cause du cancer. On vous emmène ce matin dans la boutique d'une tatoueuse qui fait bien plus que modifier l'apparence. La crise au Venezuela, nouvel épisode aujourd'hui avec la reconnaissance par 7 pays européens de l'opposant à Nicolas Maduro, Juan Guaido. Le pays qui attend aussi dans les prochains jours l'arrivée d'un convoi humanitaire très polémique. Reportage à suivre. Dans l'actualité également, le pape dans la péninsule arabique depuis hier, une première historique. Emmanuel Macron en banlieue ce soir pour la suite du grand débat, les 15 ans de Facebook. Et le nouvel an chinois, c'est l'année du cochon gentil et consciencieux, paraît-il.
Et je vous rappelle que Catherine Arenoux, maire d'hiver droite de Chanteloup-les-Vignes, est l'invitée de Léa Salamé à 7h50, c'est-à-dire dans 20 minutes.
France Inter.
Le tatouage, Sébastien, pour se reconstruire après un cancer du sein.
Oui, c'est l'idée d'une femme confrontée à la maladie il y a 2 ans et qui vient d'ouvrir cette boutique, The Teton Tattoo Shop, au concept totalement inédit, redessiner sur la peau l'image très réaliste d'un téton pour celles qui ont vécu l'ablation d'un sein. Une démarche qui nécessite beaucoup de savoir-faire et beaucoup de psychologie. 300 patientes sont déjà passées entre les mains de cette formidable tatoueuse. Reportage de Véronique Julia.
Donc moi, je suis obligée de faire avec les infractuosités de la peau.
Première étape, faire connaissance avec la patiente. Alexia Cassard définit le projet, la forme, la taille, la couleur de l'aréole et du mamelon. Elle scrute aussi la texture de la peau.
Je dessine les petites veines qu'on voit à travers la peau, les grains de beauté, si la peau n'est pas trop abîmée, qu'il n'y a pas eu trop de radiothérapie sur le sein. Les aiguilles, ce sont ces petites cartouches.
Le rendez-vous dure 3 heures en tout. 30 minutes sont consacrées à la réalisation du tatouage. Vient ensuite l'épreuve du miroir. Quand la patiente regarde le résultat, la récompense pour Alexia.
Ça reste un moment extrêmement chargé. Certaines avaient carrément enlevé les miroirs de leur maison. Et c'est assez immédiat, l'adoption.
Il a fallu 3 ans de formation à Alexia pour acquérir cette technique très particulière importée des États-Unis. Passionnée de tatouage, elle a longtemps travaillé comme biologiste et le milieu du cancer lui était familier.
Moi, j'étais biologiste dans le développement de mes médicaments contre le cancer. Pour avoir accompagné des malades toute ma vie, je sais ce par quoi elles sont passées. Je suis en capacité de comprendre les effets secondaires parce que j'ai travaillé sur ces molécules.
Isabelle, 47 ans, a fait le tatouage en décembre. Depuis, elle revit.
C'est génial. Ma mère avait les larmes aux yeux quand elle l'a vu.
En fait, c'est un trompe-l'œil.
Exactement. J'ai repeint la carrosserie.
Une renaissance qui exige beaucoup de professionnalisme. Alexia milite d'ailleurs pour que cette pratique soit certifiée, labellisée pour en sécuriser l'exercice. Le tatouage coûte quelques centaines d'euros. Il n'est pas remboursé, mais certaines mutuelles en financent une partie.
Reportage de Véronique Julia en longueur à retrouver sur franceinter.fr à l'occasion de la journée mondiale aujourd'hui de la lutte contre le cancer. 20 000 femmes subissent chaque année en France une mastectomie suite à un cancer du sein.
Et direction maintenant à 7h34 le Venezuela où Nicolas Maduro n'a pas cédé à l'ultimatum européen.
Le président vénézuélien a refusé hier soir de convoquer de nouvelles élections présidentielles comme le demandaient 7 pays européens. En conséquence de quoi l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les pays le Portugal et l'Autriche devraient reconnaître dans les heures et jours qui viennent l'opposant Juan Guaido comme nouveau président légitime par intérim. Mais au-delà de cette pression extérieure, l'opposition compte aussi sur un nouvel élément pour faire pression sur Nicolas Maduro, l'arrivée imminente d'un convoi humanitaire aux portes du pays, un convoi aussi très politique dont on ne connaît pas l'origine. 20 millions de dollars de nourriture et de médicaments, une aide comme un cadeau empoisonné pour le pouvoir. Olivier Poujade sur place à Caracas.
L'opposition vénézuélienne a identifié la frontière colombienne comme le point d'entrée principal. Du matériel venant notamment des États-Unis, dont l'acheminement a été confirmé par le conseiller à la sécurité intérieure de Donald Trump ce week-end. L'objectif étant de mettre Nicolas Maduro et ses forces armées face à leurs responsabilités, explique Staline González, vice-président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, proche de Juan Guaido. Le gouvernement sera face à un dilemme qui ne sera pas le nôtre. S'il ne laisse pas entrer la nourriture, les gens passeront la frontière. S'il la laisse entrer, c'est une victoire pour l'Assemblée. C'est pour ça qu'il faut régler de nombreux détails, que ce n'est pas aussi simple qu'on le souhaite. Une commission spéciale à l'aide humanitaire des partisans de Juan Guaido a recensé des volontaires et se rendra dans quelques heures de l'autre côté du pont de la ville de Cúcuta, en Colombie, pour aider à coordonner les opérations. La première livraison d'aide est annoncée pour la fin de semaine. Caracas, Olivier Pouget, France Inter.
Les Européens envisagent par ailleurs de de réunir un groupe de contact jeudi prochain à Montevideo en Uruguay. Et pour sa part, Donald Trump a de son côté affirmé hier soir que le recours à l'armée américaine au Venezuela était une option, je cite. En bref, toujours à l'étranger, cette visite historique du pape dans la péninsule arabique, le souverain pontife est arrivé hier aux Émirats Arabes Unis, une visite placée sous le signe du dialogue interreligieux. On y revient en ouverture du journal de 8h. La colère jaune et la lutte syndicale vont-elles finir par converger? Les gilets jaunes et la CGT seront côte à côte demain dans la rue pour une journée de grève nationale. C'est une première car le mouvement social, on le sait, s'est jusqu'ici beaucoup méfié des corps intermédiaires. Faire cause commune, l'idée fait donc son chemin chez les gilets jaunes. Exemple, dans le cortège parisien de samedi où Thibault Lefèvre a rencontré des militants jaunes dessus et rouges en dessous.
Jean-Baptiste est un des animateurs des Gilets jaunes parisiens, délégué syndical dans une entreprise de télécommunications. Il n'a pas manqué un seul samedi de manifestation. Sur son gilet jaune, des slogans pour réclamer par exemple la mise en place du référendum d'initiative citoyenne ou la fin de la 5e République. Et en dessous, un t-shirt rouge de la CGT.
On a les mêmes revendications. Nous, la CGT, on revendique un SMIC à 1800 euros. Les revendications du gilet jaune, elles sont pas nées d'hier non plus. Nous, on les porte depuis des années. Quand moi, je vais manifester mardi avec mon gilet CGT, j'aurai aussi mon gilet jaune. Eh ben, j'espère que les gilets jaunes viendront aussi.
Et des gilets jaunes participeront à la manifestation de la CGT à l'appel d'un de leurs principales porte-voix. Éric Drouet entend s'appuyer sur l'initiative lancée par le syndicat pour donner une nouvelle impulsion au mouvement.
On va se servir de ce mouvement-là pour en profiter, pour nous aussi se mettre en grève illimitée. Ce serait une façon d'avoir une action non-stop jusqu'à temps que l'État cède sur nos revendications. C'est une convergence des luttes au final, mais on n'aura peut-être pas les mêmes revendications.
Des revendications, mais aussi des modes de protestation bien différents. Pas sûr en effet que la grande majorité des gilets jaunes qui manifestent le samedi pour pouvoir continuer à travailler la semaine puissent assumer financièrement une grève générale.
Thibault Lefèvre. Pas de représentant demain en revanche de la CFDT dans les cortèges, surtout depuis la sortie ce week-end de Laurent Berger qui juge Éric Drouet pas fréquentable, je cite. Au menu de l'actualité, gilets jaunes pour terminer, à noter ce déplacement d'Emmanuel Macron en banlieue parisienne ce soir à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, rencontre prévue avec 300 élus et représentants d'associations. Jamais les pompiers de Paris n'ont été aussi sollicités et agressés. 17% d'appels d'urgence en plus et 4% d'interventions en plus par rapport à 2017. Chaque jour, les pompiers effectuent près de 1500 interventions à Paris et dans la petite couronne. Mais c'est un autre chiffre qui inquiète, le nombre d'agressions donc envers les pompiers qui a augmenté de 60%. Écoutez la réaction du capitaine Valérian Fouet.
C'est paradoxal, on n'a jamais été autant sollicité et jamais autant agressé, alors que notre mission, c'est de sauver des vies. On a du mal à comprendre des agressions qui vont commencer par téléphone, c'est des insultes, et ça peut aller jusqu'à la violence physique. Pratiquement une agression par jour, donc c'est énorme. Malheureusement, l'année dernière, on a perdu le caporal Henri sur une intervention de secours à victime, et une personne qui l'a poignardé. Il y a aussi le caillassage de camions sur des manifestations, lors d'interventions, quel que soit le quartier.
Valérian Fouet au micro de Mathilde Lemaire. Ils ont dû trouver le temps long. 28 skieurs, eux, sont restés bloqués pendant 2 heures. Hier après-midi, sur un télésiège de la station Pyrénées 2000 sur la commune de Font-Romeu, à la suite d'un incident mécanique, ils ont été évacués à l'aide de cordes. L'incident n'a fait aucun blessé. Joyeux anniversaire Facebook, le réseau social fête ses 15 ans. Aujourd'hui, Facebook a beaucoup grandi depuis, plus de 2 milliards d'utilisateurs. Aujourd'hui, près d'un tiers de l'humanité. Sonia Gobry a rencontré l'une des toutes premières utilisatrices de Facebook.
Il y a 12 ans, Claire vit en Inde. C'est à ce moment-là qu'elle s'inscrit sur Facebook. Le moyen pour elle de ne pas perdre le contact.
Je me souviens d'une très très grande excitation de retrouver des gens, de pouvoir s'échanger des photos. On était un peu tout feu tout flamme et on avait tendance à partager des choses quasiment tous les jours.
Mais depuis quelques années, elle poste moins de messages et surtout des contenus moins personnels.
On est tous quand même globalement plus discrets. C'est plus une question d'utilisation des réseaux sociaux, puisque n'importe qui pourrait faire une capture d'écran, etc. Donc vous devez faire attention.
Et sa page Facebook change au fil des ans.
C'est de plus en plus un fil d'actualité, un peu comme si vous alliez sur un site d'information. Mes amis, finalement, ça doit être à peu près 30% de ce que je lis sur Facebook. Il y a quelques années, c'était 90% et 10% d'informations, d'articles, etc.
Et puis Claire n'a plus le même regard sur le réseau. réseau social. Elle se dit notamment choquée par la politique fiscale des géants du web.
Facebook, Google, Apple, pour moi, ils sont tous dans le même bateau. Mais je ne vous cache pas que ça ne m'empêche pas d'utiliser Facebook. J'ai arrêté d'acheter sur Amazon, mais je continue à utiliser Facebook.
Un rapport ambivalent à Facebook. D'un côté, elle a conscience que ses données sont exploitées, mais de l'autre, elle estime que le réseau social lui rend toujours service.
Elle aura passé sa vie à chercher ce qui était arrivé à son mari, professeur de mathématiques en Algérie, Josette Audin, la femme de Maurice Audin, torturée et tuée par l'armée française en Algérie pendant la guerre en 1957. Josette Audin est donc morte hier à l'âge de 87 ans, moins de 6 mois après que le président Macron a finalement reconnu la responsabilité de l'État français dans la torture en Algérie. Démarrage aujourd'hui de l'inspection sanitaire européenne en Pologne. C'est ce lundi en effet que démarre la mission d'inspection européenne de l'abattoir de Kalinowo, là d'où sont partis les 2700 kilos de viande suspecte, dont 795 kilos sont arrivés en France. L'Australie, elle, n'a pas vu cela depuis 100 ans. Le nord-est est frappé depuis le début du mois par des inondations exceptionnelles, des pluies de mousson habituelles dans cette région tropicale, mais présentes en beaucoup plus grande quantité que d'habitude. On a vu même des crocodiles dans les rues inondées. Les militaires ont été déployés sur place.
7h42, Sébastien, on termine avec l'année du cochon. Les Chinois fêtent le nouvel an ce soir.
Oui, l'Asie fêtera ce soir le nouvel an lunaire. C'est la plus grande fête de l'année et les seules vacances de beaucoup de Chinois qui vont donc réveillonner dans tout le pays en famille. Les chemins de fer prévoient 413 millions de voyages durant cette période. Adieu l'année du chien, vive l'année du cochon. Reportage à Pékin de notre correspondante Dominique André.
C'est comme en Europe l'occasion d'un repas copieux avec toute la famille. À minuit pile, au moment d'entrer dans la nouvelle année, les Chinois mangent des jiaozi, des raviolis de toutes sortes et avant ça, deux ou trois plats sont incontournables à base de porc et de poisson. Dans l'est de la Chine, on ajoute des insectes, un régal selon Madame Li.
Ça c'est cru, c'est un bébé cigale, on l'appelle le ver d'or, c'est nourrissant. Les cigales, on les cuit dans l'huile, les sauterelles, on les fait sauter dans la poêle, c'est bio. C'est la spécialité de ma région, le Shandong. C'est très bon, vous voulez goûter ?
La star de l'année, c'est Peppa, le cochon du dessin animé anglais, Peppa Pig, qui raconte la vie incroyable d'une famille britannique. Un succès fou en Chine, au point que l'ambassadrice de Grande-Bretagne à Pékin a enregistré une vidéo.
Je suis l'ambassadrice de Grande-Bretagne, donc je suis la représentante de la reine en Chine. Je serais ravie de vous inviter à mon domicile à Pékin. Nous pourrions boire le thé, manger des spécialités anglaises comme des gâteaux. Mini, Mi-Ai, bienvenue chez moi, j'attends de vous rencontrer.
Ça fait toujours plaisir, ceux qui sont nés sous le signe du cochon seraient gentils, honnêtes et consciencieux. Pékin, Dominique André, France Inter.
Voilà, le cochon, gentil, honnête et consciencieux. Prenez des notes, Nicolas.
Merci Sébastien Legénie.